Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Brice Hortefeux.
Bonjour Brice Hortefeux.
Bonjour Elisabeth
Merci
Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. On a appris hier soir, on en parlait un instant avec François Langlais, que Nicolas Sarkozy rejoint le groupe français Accor, qui est un géant de l'hôtellerie mondiale. Il devient super ambassadeur des Sofitel dans le monde.
Oui, il a été sollicité par une grande entreprise française de rayonnement mondial. Reconnaissez d'ailleurs que c'est assez rare qu'un responsable politique français soit réclamé par de grands responsables, de grandes équipes dirigeantes d'entreprises. Peut-être faut-il y voir la reconnaissance de son expertise, de ses connaissances, de ses analyses sur le plan international. C'est donc un signal positif.
Contrairement aux Français qui n'ont pas finalement eu cette reconnaissance-là au moment de la
primaire. Écoutez, si vous pouvez me citer un responsable politique français qui soit sollicité à ce niveau, n'hésitez pas.
Mais justement,
c'est sans doute la reconnaissance, pour ne pas dire certainement, sans doute est une formule simplement, la réalité c'est certainement la reconnaissance de l'intérêt de ses compétences et de ses analyses.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un ancien président de la République française qui se reconvertit dans le privé, c'est inédit. Sous la Ve République.
Mais ça rappelle que Nicolas Sarkozy n'est pas dans les codes et n'est pas dans les normes.
Alors c'est vrai que ses prédécesseurs, vous avez raison, il est différent, sont restés dans la sphère publique, eux. Comme dirait quelqu'un, peut-on imaginer le général de Gaulle au conseil d'administration d'Accor ?
Je ne vois pas d'ailleurs à qui vous pensez, ça va de soi, mais le fait qu'un responsable public ait plusieurs vies, je pense que c'est sain.
C'est sain, c'est une nouvelle pratique.
C'est sain, et c'est aussi révélateur du tempérament de Nicolas Sarkozy, qui est bien sûr passionné par la vie publique. Il est aujourd'hui libéré de toute préoccupation électorale, mais il est bien sûr attentif, comme citoyen, à l'alternance, à son succès et à ce qui serait susceptible de la remettre en cause.
Autrement dit, c'est conciliable, cette nouvelle activité, avec le suivi de la campagne de François Fillon pour Nicolas Sarkozy ?
C'est naturellement, comme cela a été rappelé, ce n'est pas une activité à temps plein, ce n'est absolument pas incompatible avec le rôle du citoyen.
Vous voulez dire que la politique, c'est pas fini pour lui ?
Non, je dis qu'il est libéré de toute préoccupation électorale aujourd'hui.
Oui, et s'intéresse à la politique toujours, et il le confirmait.
Et il est attentif comme citoyen.
Comme citoyen, et au-delà, puisque la semaine dernière, il a encore reçu à déjeuner François Fillon, il peut le soutenir publiquement. Alors qu'aujourd'hui, il entame une nouvelle vie, et c'est bien son droit.
Bien sûr, il n'y a absolument aucune contradiction.
Parlons d'un ennemi politique de Nicolas Sarkozy. Maintenant, il s'appelle François Bayrou. On a beaucoup parlé sur cette antenne ce matin avec nos auditeurs. Fin du suspense sur sa candidature dans quelques heures, vous le connaissez bien, il va y aller ?
Je n'en sais rien, nous le saurons effectivement cet après-midi. Et nous saurons cet après-midi si François Bayrou est candidat du renouveau pour la quatrième fois, ce qui témoignerait de
cette constance vous impressionne.
Elle m'impressionne beaucoup et surtout ça signifie que la stéréotypie, vous savez, ce syndrome qui consiste à répéter inlassablement les mêmes mots avec les mêmes gestes est un syndrome qui frappe fort.
Mais quel serait le sens de sa candidature ? Il veut peser dans le débat.
Écoutez, ça, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je peux vous dire.
Mais vous avez dit que vous avez parlé d'Emmanuel Macron en faisant un parallèle avec Bayrou, en disant Macron est un Bayrou des temps modernes. Vous vous en souvenez, c'était une formule que vous avez utilisée en janvier. Est-ce que vous l'imaginez se rallier à Emmanuel Macron ? Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ?
Écoutez, s'il se rallie à Emmanuel Macron, ça fera donc une voix de plus pour Emmanuel Macron, ce qui est déjà un signal positif. Et ce serait peut-être aussi une forme effectivement de coopération, parce que j'ai bien regardé ce que fait Emmanuel Macron. Vous savez, je pourrais dire comme les autres que c'est le co-syndic de la faillite du quinquennat, mais comme ancien ministre de l'Intérieur, je regarde plus à fond sur les sujets qui me touchent plus, qui sont les sujets régaliens, sécurité, justice, immigration et pardon, avec Emmanuel Macron, je trouve de l'aveuglement, des contradictions ou des silences. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple, il récuse la prolongation de l'état d'urgence. Mais en même temps, un peu plus loin, quelques lignes plus loin, il demande à ce qu'il y ait davantage de moyens d'action pour la police. Et deuxième exemple de contradiction, il met exactement sur le même plan ce qui est hallucinant, l'évolution grave de la délinquance et les violences policières. Pardon, elles ne sont pas de la même nature. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens, apprécient. Dernier exemple, le terrorisme. Il n'en dit que quelques mots et à aucun moment figure la mention de la dérive de l'islam radical.
Vous le trouvez
c'est-à-dire
léger.
Vous le trouvez très léger. Je vais vous dire. Il n'y a donc, à son esprit, dans ses yeux, aucun lien entre terrorisme et dérive de l'islam. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, très concrètement, qu'il n'est pas prêt.
Au Liban, pays multiconfessionnel, où Marine Le Pen est allée chercher une crédibilité internationale, elle a surtout vu des chrétiens et elle s'est présentée en parangon de la cause des femmes en refusant de porter le voile au moment de rencontrer le grand moufti de la République libanaise. Est-ce qu'elle a eu raison?
Ce n'est pas parce qu'un responsable politique ou une autre famille politique dit quelque chose que je vais les récuser et les écarter d'un revers de main. Et c'est pas, je n'agis pas différemment avec le Front National. Simplement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand Marine Le Pen dit que des étrangers qui séjournent sur notre territoire doivent respecter les règles et la culture française, elle a raison. Mais simultanément, sans se rendant à l'étranger, refuser de se plier aux règles et aux coutumes du pays en question, c'est contradictoire. Donc je ne comprends pas et ne partage pas cette position.
Vous ne partagez pas cette position, est-ce que vous iriez au-delà en disant que c'est même, voilà, elle s'est fait un coup de com', un coup d'éclat sur le dos de cette exigence qu'elle connaissait et à laquelle elle n'a pas voulu au dernier moment
Ça rappelle une bien cruelle vérité, c'est qu'une posture, ça ne fait pas une stature.
Ouais, mais elle est puissamment installée dans l'opinion, Marine Le Pen, qui peut l'arrêter?
Je suis convaincu, François Fillon. Et vous savez, comme tous les Français, moi je ne suis pas dans une bulle, hein, je me suis posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs François Fillon lui-même s'est interrogé, il l'a encore rappelé hier dans une interview. Mais François Fillon, il a une légitimité qui est bien particulière. La légitimité des plus de 3 millions d'électeurs qui se sont portés sur son suffrage. Et seul d'ailleurs lui-même aurait pu décider de la remettre en cause, cette légitimité. Il a dit qu'il, non seulement il ne renoncerait pas, mais qu'il persévérait jusqu'au bout. Donc la force de cette légitimité s'impose à tous.
Je peux traduire de façon un peu familière, on a un candidat, il faut faire avec.
Je vous le dis, la force de cette légitimité s'impose à tous, et notre rôle, notre devoir, c'est de l'accompagner pour réussir l'alternance, car il est le seul à porter nos idées, nos convictions et nos solutions.
Mais quand même, sa volte-face sur sa mise en examen, qui ne l'empêcherait pas finalement d'être candidat, ça ne trouble pas certains de vos militants à Clermont-Ferrand, par exemple.
Peut-être pas qu'à Clermont, mais la réalité, oui, il a changé de position. Mais vous savez, vous me rappelez opportunément le mot de Churchill, il n'y a aucun mal à changer d'avis pourvu que ça soit dans le bon sens. Bien, c'est dans le bon sens.
Bon, en fait, l'idée, ce que vous nous dites, c'est que c'est gagnable, donc il faut faire bloc. En tout cas, c'est gagnable si on fait bloc derrière le candidat qui a la légitimité. Hier, sur son blog, Alain Juppé a publié un article qui était titré à propos de Fillon, choix de raison. Vous êtes complètement d'accord avec ça? C'est un choix de raison.
Oui, mais Alain Juppé a dit qu'il fallait qu'il entende l'ensemble des électeurs. C'est ce que dit Alain Juppé est de bon sens. Bien sûr, il faut rassembler pour gagner. L'union, c'est pas la garantie du succès, c'en est une des conditions. François Fillon a choisi d'écouter, notamment sur les questions de sécurité, notamment sur les gestes à l'intention des classes moyennes et populaires, ce qui était notre préoccupation. Et donc, cela va dans le bon sens. Oui. Ce qui est juste mérite d'être dit.
Oui, j'insiste sur quand même le blog de François Fillon, donc il dit d'Alain Juppé, il dit choix de raison, mais il dit aussi François Fillon devrait prendre en compte toutes les attentes des électeurs en lui demandant des comptes publiquement sur son programme. Franchement, est-ce qu'Alain Juppé rend service à votre candidat?
Écoutez,
franchement,
si la pensée d'Alain Juppé, c'est de dire que François Fillon a vocation à écouter, à être attentif aux propositions que les uns et les autres nous sommes susceptibles de lui apporter, il a raison. Et c'est précisément ce que François Fillon fait en enrichissant son projet, comme il l'a fait dans des domaines très différents, des sujets régaliens aux sujets sociaux.
Enrichir son programme, c'est-à-dire réviser, ripolliner par exemple son programme sur la sécurité sociale, ça n'est pas affaiblir le programme du candidat auquel vos militants sont
attachés. C'est confirmer les objectifs, mais simultanément, c'est prendre en compte des aspirations. Nous avions exprimé des préoccupations concernant les classes moyennes et les classes populaires. Celles-ci sont entendues.
Brice Hortefeux, vous revenez de Varsovie, où siège Frontex, cet organisme qui garde les frontières extérieures de l'Europe. Vous étiez au titre de votre mandat de parlementaire européen. C'est un enjeu capital pour juguler le flux migratoire. Est-ce que le nombre de migrants, d'abord, aux portes de l'Europe, continue de baisser, comme ça a été le cas entre 2015 et 2016?
Oui, en 2015, on avait enregistré 1 800 000 passages de migrants clandestins. Et la réalité, c'est que nous sommes en 2016 à 503 000, donc il y a une baisse qui est réelle, mais cette baisse ne doit pas masquer la réalité, c'est que nous étions dans les années 2010 à 104 000, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui est une pression forte et qui est durable. Et ça, c'est un premier signe préoccupant. Deuxième signe préoccupant, c'est que selon les mots du directeur même de Frontex, qui est un Français, d'ailleurs Fabrice Légéry, on ne connaît pas pour 20, dans 25% des cas, et voire dans certaines périodes jusqu'à 40%, qui sont ces migrants qui arrivent. On ne connaît pas leur origine, on ne connaît pas leur nationalité, et il ne faut pas naturellement être dans la béatitude. Il y a parmi ceux-ci des apprentis terroristes ou des terroristes confirmés. Donc c'est un sujet de préoccupation.
Est-ce que Frontex est suffisamment armé pour bloquer ces éventuels passages?
Alors c'est un élément rassurant, c'est que l'Europe a enfin pris conscience de la nécessité de renforcer les moyens. Par exemple, le budget de Frontex va être multiplié par 3 en 3 ans, et les effectifs de Frontex vont augmenter de 150% sur la même période. C'est donc un signal positif.
Est-ce que la France est suffisamment, elle, armée aussi pour se protéger contre les risques?
Non. La France, malgré les coups de menton et les effets de biceps, ne remplit pas suffisamment son rôle. Je vous donne un exemple très simple. Depuis le 1er janvier, il y a eu 33 opérations de retour d'immigrés illégaux coordonnées par Frontex. La France n'a participé qu'à 6, alors que, par exemple, l'Allemagne, à titre de comparaison, l'Allemagne a participé à 22.
Ça, c'est bien les opérations de reconduite des frontières européennes aux pays d'origine des migrants.
Mais cette faiblesse française, malheureusement, elle s'est inscrite dans le prolongement de la politique menée en France sur les questions migratoires. Parce que quelle est la réalité depuis 2012? C'est qu'il y a une augmentation des titres de séjour, une augmentation de près de 18%, une augmentation de l'octroi de la nationalité, plus 30%, une augmentation des régularisations des clandestins, plus 22%, une augmentation de l'asile de plus de 40%, et en même temps, il y a une baisse des reconduites, qui est une baisse de 33%, et seulement 4% des déboutés du droit d'asile, voilà la décision.
Est-ce que vous avez l'honnêteté de reconnaître, Brice Hortefeux, qu'il y a eu aussi une baisse des reconduites parce que les migrants sont renvoyés avant qu'ils ne rentrent? C'est le cas, par exemple, à Vintimille.
Oui,
on les repousse vers l'Italie.
J'ai surtout l'honnêteté de souligner que tout ce qui devait diminuer augmente, et que tout ce qui devait augmenter diminue. C'est ça la réalité de la politique migratoire française.
Et c'est vrai que la France et le gouvernement Manuel Valls, que vous connaissez bien, a assumé une partie de ces chiffres, c'est-à-dire, par exemple, la hausse des naturalisation, ça fait partie de la mission d'intégration.
Oui, c'est une grande différence entre la politique menée par la gauche et nous. Nous considérons que l'octroi de la nationalité, c'est l'aboutissement d'un parcours d'intégration, et eux considèrent que c'est le début.
Voilà, merci beaucoup Brice Hortefeux d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
Concernant l'entrée de Nicolas Sarkozy au groupe Accor, il n'est pas dans les codes ni dans les normes, nous dit Brice Hortefeux sur François Bayrou. Nous saurons cet après-midi si François Bayrou prétend représenter le renouveau pour la quatrième fois. Enfin, François Fillon est fort d'une légitimité qui s'impose à tous, nous a dit Brice Hortefeux, qui note par ailleurs que la France n'assume pas ses responsabilités européennes au sein de Frontex. Merci à tous les deux. L'interview est bien entendu à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.